Ça y est. C'est mieux comme ça. Voilà, très bien. Bon. Ben, voilà, c'était pas.
La parole résonne maintenant en silence.
Oui. Donc, de continuer un petit peu dans la ligne de ce qu'on a entendu ce matin avec Gianluca sur l'amour de Dieu. Parce qu'au fond, il me semble que le grand thème qui est ressorti ce matin, c'est cet amour qui vient nous saisir, nous rencontrer là où nous sommes. Et ça résonnait en moi, cette parole de Jésus en Saint Jean, à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu ». Il lui demande à boire et puis il lui dit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, il t'aurait donné l'eau vive. » Donc, demandons cette eau vive, ça me vient de vous dire ça, de nous dire ça, demandons cette eau vive qui est le don de Dieu, de connaître le don de Dieu et demandons aussi la connaissance de celui qui nous dit, donne-moi à boire. Après avoir entendu ce qu'a dit Gianluca et aussi avoir lu en avant-première son thème, il me semblait que le moment d'aujourd'hui, de cet après-midi, ça consisterait plutôt dans le moment de prière aussi qui nous sera donné après cette conférence, ça consisterait un peu que chacun d'entre nous puisse faire mémoire de cet amour de Dieu qui nous a, j'imagine, je ne peux pas penser qu'un moment ou un autre de notre vie, si nous sommes ici, c'est que cet amour, nous l'avons perçu, nous l'avons ressenti personnel, il nous a touchés profondément. Alors, faire mémoire, nous rappeler, pouvoir dire notre merci personnel et c'est pas du tout quelque chose qui serait se regarder ou se retourner sur nous-mêmes, mais c'est vraiment pour le remercier et aussi pour nous en souvenir, parce que j'ai pu constater dans ma vie assez longue quand même, quand j'ai préparé des personnes à raconter leur expérience dans une Mariapoli ou dans une rencontre ou dans... Bien, chacune commençait toujours par l'amour de Dieu. Parce que si on ne commence pas par raconter l'amour de Dieu, on ne peut pas raconter sa propre... On n'a pas la lumière pour voir le fil de sa propre vie. Alors, il me venait aussi, après avoir écouté Gianluca, aussi plutôt lu en avant-première ces thèmes, il me venait aussi tous les exemples qu'on pourrait rencontrer, où cet amour nous a pris, nous a bouleversés, nous a submergés, on pourrait dire, non ? Quand il y a une vocation, par exemple, particulière, mais moi je pense même un couple, un mariage, une vocation, c'est sûr que quand on dit oui à cet amour qui est quand même un peu dérangeant, on sent qu'on trouve quelque chose de tellement plus grand que ce qu'on s'apprête à laisser, que ce qu'on veut laisser. C'est un peu l'histoire de la perle précieuse. C'est un amour qui déferle sur nous, tel un tsunami, on pourrait dire, la joie qui déborde. Pensons à des grands personnages, pensons à Pascal dans son mémorial fameux, quand il dit... Feu, pleure de joie, pleure de joie. Dieu de Jésus-Christ, non pas le Dieu des philosophes et des savants, Dieu de Jésus-Christ. Et puis, il dit renonciation totale et douce. Pensons à Thérèse d'Avila qui, après avoir cherché Dieu, qui ne le trouve pas, elle s'agenouille, elle le met en demeure de lui dire qui il est, jusqu'au moment où je ne me lèverai pas tant que tu n'auras pas répondu. Et ce moment-là, elle comprend l'amour de Dieu au pied du crucifix et elle comprend aussi, elle entre dans l'oraison, elle entre dans son charisme. pensant à Kara Loubich, pour qui une simple phrase a été comme un big bang dans sa vie et dans le charisme. Dieu t'aime immensément. Pour elle, ça a été vraiment comme un déclencheur de quelque chose d'immense. Donc, cet amour de Dieu. Parfois, cette révélation que Dieu m'aime immensément, c'est pas pour tout le monde la même chose. Je pense que la chose magnifique, c'est que chacun d'entre nous a une histoire différente de l'autre et que bon, Dieu ne fait pas deux âmes égales. Mais il y a quelquefois, on peut se sentir non aimé, on a l'impression d'être rejeté ou d'avoir vraiment un défaut qui nous sépare des autres. Et de façon incroyable, on peut percevoir dans cette exclusion qu'on est aimé par quelqu'un de façon privilégiée. Quelqu'un qui se révèle à moi, qui me sauve. Je comprends qu'il m'aime ainsi, et voici que ce rejet, ce fait d'être, de se sentir écarté, se transforme en une élection. D'autres exemples, quelquefois on se tourmente parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une impasse, on ne comprend pas. Quelquefois ce sont des circonstances concrètes ou bien parce que le poids de mon passé me pèse et que je ne peux racheter, je ne peux pas le transformer, il est là. Ou devant l'inconnu d'un avenir incertain que je ne peux pas prévoir. Et puis, on prie mal, mais au fond, sur nos lèvres, c'est cette prière qui dit « Seigneur, montre-moi tes sentiers, enseigne-moi tes chemins. » Et puis, tout à coup, tout prend un sens. Cette impasse, cette impossibilité, cette impuissance, ce nœud que j'ai dans la gorge, c'est toi. Cette situation, c'est toi. Toi en personne. Et ce que tu trouves, c'est bien au-delà de ce que tu cherchais. Tu cherchais une solution à une question, à une difficulté, à une souffrance, et tu trouves une personne vivante. Tu cherchais une sortie, une voie d'échappement, et tu trouves que ce que tu vis, c'est un chemin. Tu cherchais, comme Marie-Madeleine, elle est allée chercher un mort. Elle est allée porter des parfums à un mort. Elle cherchait un mort et elle a trouvé une personne vivante. Jésus le ressuscité. Revient à l'idée une personne que je connais depuis de très nombreuses années. Je l'ai connue quand elle était toute jeune à Rome, une jeune fille du mouvement. Et elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et elle me l'a raconté. À chaque fois, pour moi, c'est quelque chose qui me bouleverse parce que, après, je ne sais pas, peut-être 20 ans de mariage, elles avaient déjà des grands-enfants. Son mari sort pour le travail et elle admire elle dit vraiment, c'est un bel homme. J'ai épousé un homme qui est beau, voilà. Et dans la journée, il a une maladie, un accident cardiovasculaire. Elle va à l'hôpital et elle voit une personne qu'elle ne reconnaît pas. Et elle dit, mais qui est-ce? Et en elle, la réponse de Jésus, c'est moi. Alors, voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors, faisons donc mémoire de cet instant où nous cherchions un cadavre et nous avons trouvé un vivant. Nous cherchions un sens, par exemple, un travail pour nos enfants, pouvoir échapper à une situation douloureuse, même dans la vie communautaire qui arrive. Et nous avons trouvé Jésus en personne. Je peux dire personnellement que c'est un peu mon parcours, voilà. Ou bien encore, c'est quand on a fait une erreur, une gaffe, un péché, quelque chose de grave, et que, au lieu de faire comme si ça n'existait pas, en essayant de minimiser la chose à nos propres yeux, nous avons eu le courage de regarder en face cette erreur, cette gaffe, ce désastre peut-être que nous avons combiné, enfin, et de l'accuser dans sa réalité, de nous humilier jusqu'au fond. Alors, qu'advient-il ? Si avant cette erreur, nous étions dans la paix, dans, je pourrais dire, en prenant une image, au quatrième étage de l'union avec Dieu, eh bien, quand on a le courage de le regarder en face, il me semble qu'on passe au 40e étage de l'union avec Dieu. Et alors, de la joie, de la paix. Et on se dit, mais alors, c'est un peu étrange quand même. Comment se fait-il que je t'ai donné du linge sale et que tu me rends du linge immaculé ? Et c'est l'expérience aussi de Pascal qui est dans le mystère de Jésus qui dit... Jésus lui dit, si tu voyais tes péchés, tu perdrais cœur. Et alors, Pascal répond, Seigneur, je perdrais cœur. Et Jésus répond, non, parce que quand tu les verras, tu sauras en même temps que tu es pardonné. Au fond, toutes ces expériences servent à nous apprendre à capituler, à cesser de vouloir aller là où nous voulons aller, à nous laisser faire par le Seigneur qui nous révèle son plan admirable. Je voudrais que tu sois moi. Nous avons besoin en quelque sorte de faire ces expériences car elles débouchent sur la lumière. Croire à l'amour de Dieu, c'est bien l'expérience fondamentale. Ce n'est pas une théorie, c'est vraiment une pratique comme les disciples au Cénacle. Ils étaient tout à la joie en voyant le Seigneur ressuscité. Tout à la joie. Les saints nous l'apprennent. Il nous a trop aimés. Élisabeth de la Trinité aimait beaucoup cette phrase des Éphésiens. Il nous a trop aimés. Il a exagéré un peu. On pourrait encore dire que l'amour de Dieu est premier. Ce n'est pas notre réponse qui est première. Nous sommes très malheureux si nous pensons nous appuyer sur nos propres forces. C'est l'expérience fondamentale. Bien sûr, nous avons dit un petit oui. Nous avons ouvert une brèche. Mais cette petite brèche lui a permis d'entrer. Donc, première partie de ce moment, prenons le temps de contempler cette disproportion infinie entre notre oui et son oui à lui. Et là, je vais vous donner, mais je voudrais le lire parce que ça va nous apaiser, cette prière de Chiara qu'elle a écrite dans un moment certainement très difficile de sa vie et qu'elle a intitulé Gratitude, qui est imprimée dans tous les livres de méditation. Elle parle avec Jésus, elle dit, elle écrit, je t'aime, non parce qu'on m'a appris à te parler ainsi, non pas non plus parce que le cœur me suggère ces mots, et non pas non plus parce que je crois que tu es amour, ni même parce que tu es mort pour moi. Je t'aime parce que tu es entré dans ma vie plus que l'air dans mes poumons, plus que le sang dans mes veines. Tu es entré là où personne ne pouvait pénétrer, quand personne ne pouvait m'aider, quand personne ne savait me consoler. Chaque jour, je t'ai parlé. Chaque instant, je t'ai regardé et sur ton visage, j'ai trouvé la réponse. Dans tes paroles, l'explication. Dans ton amour, la solution. Je t'aime parce que tu as vécu avec moi des années durant et j'ai vécu de toi. J'ai bu à ta loi sans le savoir. Je m'en suis nourrie, fortifiée. Je me suis remise. Et pourtant, je ne savais pas, comme l'enfant qui boit le lait de sa maman et ne sait pas encore l'appeler par ce nom si doux. Donne-moi de t'être reconnaissante, au moins un peu dans le temps qui me reste, pour cet amour que tu as versé en moi et qui me force à te dire « je t'aime ». On peut mettre la mosaïque une seconde. Voilà, pour nous aider à avancer dans la connaissance de cet amour et dans la retraite. Chemin de communion, chemin de sainteté. Seul Dieu est saint. La sainteté, on ne l'obtient pas par nos propres forces. Et lui dont on ne peut prononcer le nom, hein, quand on dit à la messe saint, 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 saint. Et aussi Isaïe, qu'on a peut-être entendu hier, qui saint, 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 disent ces séraphins autour du trône. On ne peut pas prononcer son nom. Et pourtant, il veut nous communiquer sa sainteté à travers l'Esprit, à travers son Fils bien-aimé. Cette sainteté qui découle du Père, elle se répand sur l'Église, par l'Esprit et par le Christ et à travers la parole. Et l'Église, le peuple de Dieu, chacun avec des fonctions différentes, parce qu'on voit la hiérarchie et on voit le peuple, et qui est représenté ici, tout sur le même plan, justement pour dire que nous sommes tous en égalité, et c'est tout un autre chapitre qu'il faudrait ouvrir. L'Église apparaît vraiment comme un peuple qui tire son unité, ça c'est la Lumen Gentium qui le dit, tire son unité de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit. Et c'est l'unité qui nous fait saints, c'est cette unité qu'on reçoit de la Trinité. Si tu savais le don de Dieu, ce don c'est la sainteté, c'est sa vie qu'il veut nous communiquer. Tu peux enlever. Vous savez qu'il y a une exhortation apostolique du pape François sur la sainteté, Gaudete et exultate. La sainteté dans le monde contemporain, le pape souligne que c'est un don de Dieu, un appel que nous avons tous reçu un jour ou l'autre. Peut-être nous l'avons ressenti, hein, c'est cet appel à le suivre. Et il nous invite, le pape, à en faire mémoire de ce moment où nous avons senti cet appel à la sainteté. Chacun est appelé par Dieu à la sainteté. Il n'y a pas les plus et les moins. On est tous appelés. Et c'est aussi la Lumen Gentium qui le dit. Et chacun dans sa route, c'est des voies différentes. Il n'y en a pas deux pareilles. Dieu nous veut saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Et il nous invite sans cesse à de nouvelles conversions pour nous faire participer à sa sainteté. C'est toujours le pape François qui dit ça. Donc une retraite, c'est une occasion pour chacun d'entre nous d'une nouvelle conversion pour cet appel. Et le pape nous dit, c'est possible, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé. Même si nous nous sentons enlisés, dit-il, dans notre fragilité, dans notre médiocrité, incohérence, peut-être même dans le péché, nous ne savons pas comment sortir. Alors, je voudrais maintenant, après toutes ces espèces d'introductions, je voudrais maintenant mettre un peu le zoom sur un verset de l'évangile de Jean que je vais introduire encore. Et ce verset, je vous le dis tout de suite, c'est le verset 16 du chapitre 3 qui est en quelque sorte, on pourrait dire, une synthèse de tout l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, je vais encore vous l'introduire. Un moment, tu me donnes 5 minutes de plus.
Tout à fait.
Non, 5 minutes de plus. Alors, l'évangile de Jean, on va en parler plusieurs fois pendant cette retraite. Ce n'est pas un texte facile. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une théologie sur la personne de Jésus. C'est donc toute une perspective de la théologie théologique sur Jésus. Et ce n'est pas facile, on a l'impression que ça se répète. J'ai déjà entendu ci et ça. On ne sait pas si c'est Jean qui parle, on ne sait pas si c'est Jésus qui parle, on ne sait pas si c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais on peut quand même essayer de comprendre en synthèse ce qu'il y a en dessous de cet évangile de Jean. On peut dire qu'il y a comme deux grands axes, deux grandes lignes dans cet évangile qui, entre autres, se pénètrent entre elles. Ce sont des lignes, d'ailleurs, qui se retrouvent dans chacune de nos vies. Une des lignes, un de ces axes qui traverse tout l'évangile, c'est, on peut dire, ce sont des forces antinomiques qui s'affrontent en nous et dans l'histoire, qui se sont affrontées pour Jésus et qui s'affrontent en nous dans l'histoire. Quelles sont ces forces antinomiques ? Lumière, ténèbres. Foi, croire, incrédulité, ciel, terre, connaissance de Dieu, ignorance, salut, condamnation. Le Verbe qui s'est fait chair nous appelle, par cet évangile, à prendre position. Ou pour lui, qui est la lumière, le salut, le ciel, ou contre lui. On ne peut pas rester dans l'évangile de Jean en hésitation, danser sur un pied ou sur l'autre. Le choix est incontournable, comme dit le prologue. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'évangile de Jean est basé sur ce choix dramatique entre la lumière et les ténèbres, entre la foi et l'incrédulité. Alors ça, c'est un axe qui traverse tout l'évangile, on peut dire. Un autre axe, c'est celui de l'unité, de la communion. Cette ligne, ça concerne quoi ? L'unité constamment affirmée de Jésus avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Je fais toujours sa volonté. C'est ma nourriture. Je suis l'envoyé, celui que le Père a envoyé. Jésus définit son identité comme l'envoyé. Jésus avec le Père, qui est le leitmotiv, on peut dire, de tout l'évangile. Mais aussi l'unité de Jésus avec les hommes. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, en abondance. Le bon pasteur, enfin, bon, plein d'images, on peut dire, qui là maintenant ne me reviennent pas toutes à l'esprit. Et l'unité donc du Christ avec les hommes à qui le Fils a donné, repensons encore à notre mosaïque, a donné tout ce que lui-même a reçu du Père. Il a donné la parole, il a donné la connaissance du Père, il a donné le don du Père, donc l'unité du Christ avec les hommes, et enfin l'unité des hommes entre eux. Donc c'est un autre axe qui parcourt tout l'évangile. Sur la toile de fond de ces deux plans, de ces deux grands axes, donc celui du drame, lumière, ténèbres, accueil, refus, etc., et celui de l'unité qui se compénètre et où se joue un drame, l'évangéliste présente une personne à accueillir, Jésus. Mais non pas accueillir tout seul, mais dans son origine qui vient du Père, de celui qui l'a envoyé. Donc, sur la personne de Jésus est requise une option fondamentale. Accueillir ou non dans sa communauté, croire qu'il est le Fils. Croire qu'il est le Fils, même au moment où il sera, où en lui, tout dira qu'il n'est pas le Fils de Dieu. On ne peut pas échapper à cette option. L'ignorer, ignorer cette option, ce serait déjà y répondre. Alors, je citais tout à l'heure cette phrase de Jésus à Nicodème, et situe un petit peu ce chapitre 3 de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Je pense que vous l'avez un petit peu présent à l'esprit, mais c'est déjà donc au chapitre 3. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il est allé voir Jésus la nuit, en cachette, bien sûr. Et voilà, voilà comment il ouvre l'entretien avec Jésus. Il lui dit, Rabbi, donc il l'appelle maître, nous savons que tu es un maître, que tu viens de la part de Dieu, car personne ne pourrait faire les signes que tu accomplis si Dieu n'était pas avec lui. Voilà donc son introduction. Mais quelle est la réponse de Jésus? La réponse de Jésus est assez déroutante. Pour toute réponse, Jésus lui parle de renaissance. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus invite Nicodème à s'ouvrir à une perspective de renouvellement radical, une renaissance. Mais il ne comprend pas. Cet homme, il n'est pas dans l'attitude d'apprendre, de se vider de son savoir. Il est venu avec tout son savoir. Nous savons, je sais. Il n'est pas dans l'attitude de s'ouvrir à une nouveauté absolue, celle de l'Esprit-Saint. Il fait preuve vraiment de n'avoir rien compris parce qu'il répond, mais comment un homme pourrait-il renaître s'il est vieux? Comment peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Et plus loin, encore au verset 9, encore quand Jésus lui dit autre chose, il dit, mais comment cela peut-il se faire? Et pourtant, Jésus le dit bien clairement, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu, nul ne peut voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, naître d'en haut, laisser la place à l'esprit. Mourir en quelque sorte à une vie terre à terre, à un raisonnement humain, à être de la terre pour entrer dans une vie nouvelle, dans une nouvelle manière de connaître, dans un nouveau mode de connaissance. Dès le prologue de Jean, cette nouvelle naissance était annoncée, si vous vous souvenez bien, cette génération nouvelle qui vient de Dieu. À ceux qui l'ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni de vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc, déjà, il était question d'une nouvelle naissance. Donc, à la phrase de Nicodème, Jésus répond, « Nul ne peut voir le royaume s'il ne renaît pas d'en haut. » Il est désorienté, cet homme, il est déstabilisé. Lui qui a consacré sa vie au service de Dieu et à l'étude des Saintes Écritures. Il vient d'entendre dire que sa science, son expérience, ne servent à rien pour entrer dans le royaume, s'il n'accepte pas de renaître. Il doit naître comme naît un enfant. Et pour lui, c'est absurde. Et Jésus va expliquer, à mots couverts, disons, mais quand même, il va l'expliquer en quoi consiste cette renaissance. Au verset 13, Jésus explique qu'il s'agit de s'ouvrir au mystère de la filiation divine de Jésus, c'est-à-dire de croire qu'il est le Fils. Et bien sûr, quand on dit croire qu'il est le Fils, c'est croire au moment quand il sera glorifié, c'est-à-dire quand il sera mis en croix, où il aura toutes les apparences de quelqu'un qui n'est pas le Fils, qui n'est pas aimé de Dieu, qui est même maudit par Dieu. Croire qu'il est le Fils à ce moment-là. parce que Jésus dit « Nul n'est monté au ciel, sinon que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Donc Jésus se définit comme le Fils. Et aussi s'ouvrir, deux conditions pour renaître d'en haut comme un enfant, s'ouvrir au mystère de son exaltation sur la croix. Et là, on a cette phrase magnifique de Jésus qui rappelle l'Exode, qui rappelle donc les serpents, le peuple s'était rebellé contre cette nourriture fatigante qu'ils avaient reçue, et Dieu a envoyé des serpents vélénés qui les ont mordus, qui les ont fait mourir. Et comment est-ce que Dieu demande à Moïse de sauver le peuple en érigeant sur un pic, sur un serpent de bronze, celui qui le regarde, le sera sauvé. Et Jésus se compare à ce serpent de bronze, c'est-à-dire, il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Et du même coup, s'ouvrir donc au mystère de la filiation, au mystère de la croix, qui est gloire en même temps, qui est salut, qui est le sauvetage de l'homme, en regardant celui qui nous ressemble, on est sauvé de notre mal, de cette piqûre du serpent, disons, et s'ouvrir en même temps au mystère de l'homme. Et Jésus résume tout cela dans cette phrase magnifique que j'ai citée tout à l'heure. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tout est résumé dans ce verset. Tout le mystère de l'incarnation et le mystère de Pâques sont condensés dans cette parole. Par le Christ, nous pouvons naître, renaître de façon complètement nouvelle. Nous pouvons renaître en croyant. Ce verset révèle l'amour sans mesure du Père, avec la collaboration du Fils qui nous est donné. Il révèle l'importance de croire, tout homme qui croit. Il révèle une promesse donc de salut, définie d'abord de façon négative pour qu'il ne périsse pas, et de façon positive qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la sainteté de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est déjà le paradis. Hein. Ne périsse pas, mais la vie éternelle, participation à la vie de Dieu. Donc un triple mouvement, une révélation accueillie dans la foi qui nous sauve. Jésus révèle donc à Nicodème, dans une extrême synthèse, la profondeur de l'amour de Dieu et en quoi consiste cet amour. Cet amour qui veut nous faire renaître comme des enfants. Donc trois aspects de l'amour qui ne sont qu'un, une révélation, Dieu se donne. Dieu se donne. Mais pas d'un amour éphémère, mais définitif, immense, excessif on peut dire. Que ce don peut être accueilli librement par le croire, qui est entré dans une nouvelle logique, où on laisse tomber nos certitudes pour vivre une nouvelle naissance et entrer dans une nouvelle existence. C'est un peu ce que je disais au début, c'est quand tout se renverse, tout ce qui est négatif d'un seul coup devient positif. Tout ce qui n'est pas cette impasse, ça devient un débouché de lumière. Et là, on fait vraiment l'expérience du royaume de Dieu, du salut. Fruit de l'amour du Père et du Fils, mais aussi de notre amour qui accueille, qui croit. Et le croire, c'est aimer. Et parce que Dieu aime la réciprocité. Voilà. Il veut, comme un père, l'amour de ses enfants. Donc, notre croire, c'est l'aimer.
Ça va? Ça va? Merci Florence. On rigole pas, hein? En fait, pendant que tu parlais, il me sont venus à l'esprit pas mal de moments de ma vie. Ce moment où j'ai découvert ma vocation. La joie profonde que je pouvais quand cette vocation, c'était vraiment ce que je désirais pour moi. Mais je ne vous rencontrerai pas de ça. Par contre, je vais vous rencontrer un épisode de ma vie récente, il y a 2 ans. Se renaître d'un haut de Nicodème. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, je m'approchais pas mal à Jésus avec tout mon savoir. En fait, j'ai étudié pendant toute ma vie. La philo, les doctorats, la musique, tout, non? Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais devenu ce que je savais. Mais je ne vivais pas ce que je savais. Et donc, au moment de Jean-Marie, on vivait ensemble dans le même focolar, il sait que j'avais une pièce pleine de livres. Non? Et je suis parti de la France, je suis rentré en Italie avec 13 cartons de livres. Après, j'ai vécu 3 ans en Italie, 2 ans en Italie, et j'en ai acheté d'autres. Non? Donc, c'était pas mal de livres. Et en juin dernier, en juin 2020, je me suis dit... tous ces livres ne m'aident pas. Et donc, je les ai donnés, je les ai revendus, et ce que je n'ai pas donné et revendu, je les jetais. Et les gens, comme Florence, étaient assez scandalisés par cette affaire. Assez scandalisés. En fait, de 13 cartons, j'ai gardé seulement un demi-carton. Il y avait un peu de musique, un peu de poésie et la Bible. Et à partir de ce moment-là, je recommençais, si vous voulez, à me nourrir de cette foi chrétienne exclusivement par l'écriture. Et s'il y a une chose que je voudrais vous communiquer pendant ce jour, c'est l'amour pour l'écriture. Parce que pour moi c'était fantastique d'entendre Florence qui parlait de ce chapitre de l'évangile de Jean, qui est magnifique d'ailleurs, vraiment, vraiment magnifique. Mais en fait, tu lis l'évangile de Jean, plus tu le lis, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes et plus tu le comprends. Plus tu le comprends, plus tu vois aller de l'avant. Et c'est avec chaque évangile, c'est comme ça. Et pour moi, le fait de mettre tout de côté, littéralement, non, de n'avoir rien d'autre que l'évangile dans ma pièce, dans ma chambre, c'était une expérience d'une nouvelle vie qui entrait en moi. Et je pense que c'est le don le plus grand que Dieu m'a fait pendant ces dernières années. Et c'est aussi peut-être la seule chose que je voudrais vous communiquer pendant ces jours-ci. Parce que c'est vraiment le rapport avec Jésus qui passe par la parole, c'est vraiment quelque chose qui nourrit notre désir de Dieu et notre amour de Dieu. Et c'est très fort. Merci vraiment, Florence. Florence est toujours scandalisée pour ce que j'ai fait. Hein, mais... Oh non, d'accord.
Personnellement, moi j'ai eu une expérience différente parce que quand j'ai fait des études de théologie, pratiquement on n'avait pas d'argent pour acheter des livres. Et donc c'était vraiment incroyable d'avoir presque rien. Or, j'aurais dû, disons, pour bien faire ces études, j'aurais dû avoir des livres. Eh bien, Dieu m'en a envoyé beaucoup après. et les livres dont j'avais besoin. C'est incroyable. Tu vois, donc, toi, tu les as donnés. Moi, je les ai reçus de Providence. Pas les tiens, mais d'autres. Parce que, d'après moi, il en faut aussi. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup auxquels je retourne continuellement. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Qui m'aident à entrer dans l'Évangile. Voilà.
On continue avec ce silence, cette méditation, jusqu'au goûter. D'accord ? C'est vrai, sur l'entrée ?
Ouais,
c'est maintenant le goûter ? Oh, très bien, ok. On va goûter comme on goûte les choses pour nourrir notre vie aussi de choses matérielles. Voilà. Bien.